Le journal d'Aurore Richard. Bonjour Aurore.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Au Proche-Orient, Israël veut renvoyer à Gaza des enfants actuellement soignés pour des cancers à Jérusalem. Des associations ont saisi la plus haute autorité du pays.
Unis pour l'Amazonie, voilà comment résumer la visite d'Emmanuel Macron au Brésil et sa rencontre avec le président Lula.
Et puis en France, qui va pouvoir bénéficier du cannabis thérapeutique? Selon quelle modalité? L'expérimentation vient tout juste de se terminer, on y revient dans le journal. Des enfants gazaouis atteints de cancer et soignés dans des hôpitaux de Jérusalem-Est annexés vont-ils être renvoyés sur un territoire en guerre? C'est en tout cas l'ordre formulé par les autorités israéliennes pour ces jeunes patients en rémission. Ils devaient partir ce matin vers l'enclave, mais la Cour suprême, la plus haute autorité du pays, a été interpellée par des associations. Les juges ont désormais 30 jours pour décider du sort de ces malades. Thibault Lefebvre s'est rendu dans le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Augusta Victoria.
Amira a 12 ans. Atteinte d'une tumeur au cerveau, elle arrive le 18 septembre en ambulance de Gaza. La moitié de son corps ne bouge plus. Après de longues semaines de radiothérapie et de rééducation, elle remarche. Selon l'ordre des autorités israéliennes, elle est donc candidate à un retour dans l'enclave.
Je ne veux pas repartir à Gaza. Je souhaite que mon père et ma sœur, qui sont toujours là-bas, puissent quitter Gaza. Et nous partirons ailleurs. Là-bas, ils sont en danger. Notre maison a été bombardée. Elle a été réduite en poussière comme le reste de l'enclave. Gaza, c'est toute ma vie. J'ai toujours besoin de soins ici. Je ne peux pas aller vivre sous une tente. Je prends toujours un traitement pour pouvoir marcher et que ma main fonctionne correctement. Je vous en conjure, arrêtez cette guerre.
La fillette éclate en sanglots. Sa maman, Iman, tente de la réconforter.
Ma peine et ma douleur sont immenses. Parfois, Amira me dit qu'elle veut rester ici et d'autres fois que son père et sa sœur lui manquent. Tellement qu'elle est prête à rentrer à Gaza et mourir à leur côté. Je suis démunie, je demande de l'aide aux médecins ici, je suis dévastée. Je dois rester forte pour ma fille, mais je n'ai plus de force. Rentrer à Gaza, là-bas je ne trouverai même pas un doliprane pour apaiser ses douleurs. Et en même temps, j'ai mon autre fille qui m'appelle et qui me dit « Je veux ma maman ».
50 patients gazaouis sont soignés à l'hôpital Augusta Victoria. Depuis quelques jours, toute la communauté médicale se bat pour les garder. Le docteur Fadi Alatrash est le directeur de l'établissement.
Je ne peux pas les renvoyer à Gaza, ça serait signer leur arrêt de mort. Même les personnes normales, en bonne santé, ne peuvent pas vivre là-bas. Alors imaginez pour les patients atteints d'un cancer.
Selon le docteur Alatrash, la situation à Gaza est catastrophique. Il n'y a plus de structure de soins adaptées et 10 000 malades du cancer survivent dans des conditions sanitaires déplorables.
Le reportage de Thibault Lefebvre à Jérusalem. Au Venezuela, la campagne de la prochaine élection présidentielle en juillet prochain est loin d'être apaisée. Les voisins colombiens et brésiliens s'inquiètent du manque de transparence du dépôt des candidatures. Tous les candidats n'ont en effet pas pu s'inscrire. Cela s'est joué in extremis pour la principale coalition d'opposants dont l'unité se brise déjà, Alice Campagnol.
Au Venezuela, le feuilleton des candidatures à la présidentielle continue. Face à l'inéligibilité de Maria Corina Machado, la très populaire leader de l'opposition, un nom avait été donné il y a quelques jours, celui de Corina Yoris, le joker des opposants. Mais impossible d'inscrire la remplaçante, sur qui pourtant ne pèse aucune décision de justice, et ce, sans explication du Conseil national électoral. Finalement, retournement de situation, la coalition a pu inscrire hier, après la fin du délai imparti, Edmundo González Urrutia, politologue et ancien ambassadeur. Mais entre-temps, quelques minutes avant la fermeture des inscriptions, s'était enregistré Manuel Rosales, qui prétend représenter l'opposition. On l'écoute.
J'ai dû prendre la décision au dernier moment, parce que sinon nous perdions notre opportunité. J'ai dû décider entre d'une part laisser le terrain libre à Maduro et que nous choisissions encore une fois l'abstention, ou bien donner l'opportunité au Venezuela de changer.
Cette inscription sème la pagaille dans les rangs des opposants qui cherchent à afficher l'unité, eux qui ont longtemps été divisés et ainsi perdu beaucoup de batailles, des batailles déjà inégales contre le pouvoir en place au Venezuela. Manuel Rosales, le candidat autoproclamé de l'opposition, est loin de faire l'unanimité. Il est accusé d'avoir pactisé avec les autorités par le passé. Ils sont en tout 13 candidats, dont 10 sont considérés comme des marionnettes du pouvoir, présents pour faire bonne figure.
La politique agricole commune, revue et approuvée par les 27, une version avec moins de contraintes environnementales. Elle prévoit par exemple de supprimer les jachères obligatoires, de remplacer aussi l'obligation de rotation des cultures par une simple diversification. Et face à la colère des agriculteurs européens, Bruxelles s'est aussi saisie de la question de leur rémunération. La Commission européenne souhaite notamment la création d'un observatoire sur les prix de production.
8h06 sur France Culture, c'est la suite du journal. D'Aurore Richard, Emmanuel Macron et le président brésilien Lula sont ensemble unis pour défendre la forêt amazonienne.
Ils s'en donnent les moyens. Les deux chefs d'État se sont engagés à lever 1 milliard d'euros d'investissements publics et privés sur les 4 prochaines années. Au-delà de la promesse, l'image était forte. Ils ont retrouvé le chef indigène Raoni dans un décor unique en plein cœur de la plus grande forêt tropicale du monde, Maxence Lambrec.
Sous un chapiteau couvert de feuilles de palmier, dans la moiteur de l'île de Kombu, Emmanuel Macron et Lula, chemise blanche, les bras levés, affichent leur amitié dans cette nature exubérante. Le Brésilien prend lui-même des photos, le Français savoure.
Seigneur Emmanuel Macron.
Loin de l'Ukraine, de Gaza, du Mercosur, des points de tension entre eux, ils se veulent défenseurs de la planète. Des petits poussins jaunes se faufilent entre les caméras, les moustiques s'en donnent à cœur joie.
Je vais maintenant te décorer.
Le cacique Raoni, Tong, coiffe de plumes jaunes sur la tête, reçoit la Légion d'honneur.
Je voulais te dire, nous te disons tous, Name Kure, Raoni, merci. Pour ton œuvre, ton combat à la sable, pour toute l'Amazonie et ses peuples autochtones.
Ils tombent dans les bras l'un de l'autre, embrassade, accolade, Raoni se saisit du micro.
Lula.
Je considère Lula comme mon frère, Macron comme mon fils. Il les appelle à continuer le travail. Le cacique demande du soutien pour obtenir le Nobel de la paix. Seul bémol à cette mise en scène exceptionnelle au pied de l'arbre de vie,
Soumaouma,
le bourdonnement des groupes électrogènes pour la sono, le wifi, à l'image de cette écologie très pragmatique des deux côtés de l'Atlantique. Raoni appelle Lula à suspendre un immense projet ferroviaire. Ici, au large de Belém, où se tiendra la COP30 dans 18 mois, il soutient un grand projet pétrolier offshore près de l'estuaire du fleuve Amazon.
Et aujourd'hui, Emmanuel Macron se rend sur une base navale dans le sud-est du Brésil avec l'objectif de renforcer le partenariat de défense entre les deux pays. Le Premier ministre, Gabriel Attal, va inaugurer une nouvelle formule pour la séance de questions au gouvernement du mercredi. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, l'a validée hier. À partir de la semaine prochaine et pour 5 séances, Gabriel Attal sera en fait le seul à répondre et à faire face aux parlementaires. Ce format est loin de faire l'unanimité, y compris dans la majorité, Rosalie Lafarge.
Erreur fondamentale, tranche un député Renaissance. À quoi ça sert d'avoir d'autres ministres alors? Même position pour un cadre du Modem totalement contre. C'est révélateur, dit-il, d'une tendance qu'il est urgent d'inverser, la concentration et la personnalisation des pouvoirs dans nos institutions. Essayons, nuance un élu Horizon, espérant que cela redonne un peu d'intérêt à l'exercice. Le sujet a fait débat hier lors de cette réunion tendue, confie l'entourage de Yael Braun-Pivet. Mais un consensus s'est finalement dégagé, grâce notamment au groupe Renaissance, LR, RN et Liot, favorable à cette expérimentation, sous condition. Tous les parlementaires pourront poser des questions au Premier ministre, et pas seulement les présidents de groupe, comme le veut l'usage aujourd'hui. Et puis le temps de parole de Gabriel Attal sera limité. Ça va redonner de la vie à cette séance du mercredi. Mercredi, prédit déjà un conseiller de l'exécutif. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs souhaités, redynamiser ce temps fort parlementaire qui ne fait pas toujours le plein. Le retour à 2 séances de questions par semaine est pourtant tout récent, ça date de fin novembre. Mais 4 mois plus tard, force est de constater que ça n'a pas pris, confie un ministre. On les déteste tous, ces 3/4 du mercredi. Que des seconds couteaux pour poser des questions d'intérêt parfois limité, tacle un ancien député entré, lui aussi, au gouvernement, et ravi de voir le Premier ministre en prendre les rênes. Plutôt à l'aise dans l'exercice, Gabriel Attal s'est en tout cas déjà dit prête à tester ce nouveau format. « Je ne suis pas du genre à me planquer derrière mes ministres », justifiait le chef du gouvernement le mois dernier, quand la question commençait à se poser. Sa prédécesseur à Matignon appréciera. Elisabeth Borne avait-elle en son temps décliné la proposition de la patronne du Palais Bourbon.
Les précisions de Rosalie Lafarge. Le Premier ministre qui réunit ce matin son gouvernement pour parler travail et plus précisément assurance chômage. Elle est dans le viseur du gouvernement alors que le déficit public s'établit à 5,5% du PIB l'an dernier. Un chiffre dévoilé hier par l'INSEE, supérieur aux projections du gouvernement. Gabriel Attal a déjà dit défendre un modèle social qui incite davantage à l'activité. De son côté, le ministre des Finances souhaite réduire la durée d'indemnisation des chômeurs. C'est la fin de l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Lancé en 2021, plus de 3000 patients ont pu en bénéficier. La loi de finances de la sécurité sociale a décidé de légaliser le cannabis à usage thérapeutique. Et il s'agit maintenant d'organiser d'ici janvier prochain l'accès à ces produits à tous les patients qui pourraient en faire la demande. Ils pourraient être très nombreux, Cécile de Kervas-Doy.
Les 5 indications qui ont été retenues pour obtenir ce médicament concernent des malades atteints de maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, les malades en soins palliatifs ou en cancérologie, pour qui le cannabis produit un effet sur la douleur qu'aucun autre médicament n'arrive à soulager. Cela représente entre 150 000 et 300 000 patients potentiels. En janvier prochain, ils pourront obtenir du cannabis thérapeutique après une première prescription réalisée à l'hôpital et sous forme d'huile, parce que l'État a préféré l'huile aux fleurs, trop proche d'une pratique récréative du cannabis. D'ici là, reste à mettre en place toute l'industrie de ce nouveau produit avec des décrets et des arrêtés attendus par le professeur Nicolas Autier. Il est médecin psychiatre et pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand et c'est lui qui a piloté l'expérimentation.
Il y a 2 points importants. Il y a le prix qui va pouvoir être proposé à ces médicaments parce que c'est aussi ce qui va conditionner le fait que des laboratoires proposent des médicaments. La France n'est pas réputée pour donner des prix très élevés sur les médicaments, donc il faut que le prix se permette à des fournisseurs de fournir ces médicaments. Et la deuxième chose, ça va être la question du remboursement. Est-ce que l'assurance maladie sera d'accord pour qu'il y ait un remboursement auprès de ces patients qui, pour la majorité d'entre eux, sont en affection longue durée, donc pris en charge à 100% par l'assurance maladie? C'est ce qui fera l'accessibilité. L'objectif depuis 5 ans et demi où nous travaillons sur ce sujet, c'est de travailler sur l'accès à ces traitements. C'est pas juste de le légaliser.
Comme c'est déjà le cas depuis longtemps chez nos voisins européens, par exemple en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas.
Les explications de Cécile de Kervas-Doué. Nouveau retard pour l'EPR de Flamanville. L'autorité de sûreté nucléaire annonce que le chargement du combustible est repoussé de fin mars à mi-avril. C'est lié à une consultation qu'elle compte mener. Une consultation du public concernant justement la mise en service du réacteur dont la construction a été lancée il y a 17 ans. Avec plus d'une décennie de retard, la facture, elle, s'alourdit. Elle est 4 fois plus importante que le budget prévu initialement. L'économie sociale et solidaire est en deuil et vous pleure. C'est l'hommage d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, à Claude Alfandéry, figure titulaire de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Il est mort lundi soir à l'âge de 101 ans. Il a notamment fondé France Active, une association d'aide à la création d'entreprises engagées. Claude Alfandéry a aussi été un résistant de la première heure. Et pour Timothée Duverger, chercheur à Sciences Po Bordeaux, résistance et économie sociale et solidaire sont en fait intimement liées.
Claude Alfandéry, c'est l'une des grandes figures de la Seconde Guerre mondiale, qui est un moment fondateur de sa vie, à savoir l'épisode de la résistance. Il a développé ce que René Char appelait le trésor de la résistance caché dans les maquis, c'était celui de la fraternité. Une fraternité en acte, une fraternité de combat, et je crois que c'est ça finalement qui l'a amené à s'engager dans l'économie sociale et solidaire, où il a retrouvé finalement une fraternité à l'œuvre, qu'il avait découverte dans sa jeunesse. Dès la fin des années 80, il a participé à la fondation de France Active, qui est une agence de financement en fait de l'économie sociale et solidaire, qui servait surtout à financer des chômeurs créant leur propre entreprise. Donc il a été vraiment un des pionniers de la finance solidaire. Et puis il a renouvelé cette approche-là dans les années 2000 en créant le labo de l'ESS, qui est le think tank de l'économie sociale et solidaire, dans laquelle il avait fait reconnaître notamment les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont des outils de développement local et d'intercoopération des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur les territoires. Donc il a eu une contribution vraiment très importante pour ancrer l'économie sociale et solidaire sur les territoires et la structurer aussi au plan institutionnel.
Et on apprend aussi la mort du réalisateur français Laurent Achard à l'âge de 59 ans. Il avait notamment reçu le prix Jean Vigo en 2006 pour Le Dernier des Fous avec Annie Cordy. Le temps pour ce matin, ce sont des pluies éparses sur toute la partie est du pays, des nuages globalement sur toute la France, quelques rayons de soleil pour la région Occitanie. Pour les températures, il fait 8 degrés à Cherbourg, 11 à Marseille et le maximum, c'est 13 degrés pour Ajaccio.